Bonjour, vous écoutez le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous accueillons Yannick Roudot avec qui nous allons parler d'ancien monde et de nouveau monde, d'improbable et de nouvelles trajectoires. Après avoir travaillé 15 ans dans la bourse en tant que journaliste financier, Yannick Roudot opère un virage et se concentre sur les questions écologiques et philosophiques. Yannick se présente comme un éveilleur de conscience. Il consacre son temps à semer des graines dans les esprits au travers de conférences et de livres. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Yannick, d'abord pour remonter un peu dans le temps, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience dans la finance ?
Oui, alors c'est une expérience, c'est-à-dire qu'en sortant d'école de commerce, j'ai boursicoté, ça a marché, je me dis tiens, il se passe quelque chose. Et puis pendant mes études, j'ai commencé à travailler en stage pour le Journal des Finances. J'étais journaliste économique et financier. Et j'ai fait ça, du coup, pendant presque 15 ans. C'est-à-dire que ça m'a tellement plu de comprendre ce qui se passait au cœur du système économique mondial et de jouer en plus, parce qu'on joue, on prend des positions, on spécule un peu, on revend, on rachète. Et ça m'a permis d'avoir une bonne culture économique et financière pendant une quinzaine d'années jusqu'à ce que je me dise que finalement, tout ça nous amenait droit dans le mur.
Et alors, quel est le fait qui t'a fait changer de trajectoire ?
Bah, il y a plusieurs choses. Il y a la prise de conscience qu'à un moment, au niveau environnemental, ça n'allait pas très bien. C'est-à-dire que c'est le début de la prise de conscience climatique au niveau global. Et puis cette prise de responsabilité, de se regarder en face et de se dire, mais en fait, ce que je fais tous les jours, la spéculation sur le pétrole, sur les devises, les taux d'intérêt, écrire des articles dans le Figaro, dans le Journal des Finances ou Capital pour dire aux gens quoi acheter, quoi vendre, j'y contribue largement. Donc une forme de honte, quelque part, la honte de ce que je faisais, un miroir qui se met, que tu prends en pleine figure. Et là, tu dis, il faut que je change. Et donc j'ai commencé à le faire en plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de très violent. Mais dans un premier temps, j'ai cherché des béquilles dans mon métier. En tant que journaliste économique et financier, je me suis dit, l'avenir, c'est la finance éthique et la finance socialement responsable, ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable aujourd'hui. Donc j'ai commencé à proposer des articles pour le journal Le Monde et des dossiers entiers dans les années 2000 sur comment donner du sens à son argent, comment donner du sens à ses placements et réconcilier l'exigence de rentabilité avec l'impact environnemental et l'impact social sociétal. Et puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était pas tant l'ISR, c'était certes une solution, mais c'était pas la solution. C'est tout le système économique qu'il fallait repenser. Et à force de travailler, de lire et de commencer à écrire des livres sur le sujet, j'en suis arrivé à la conclusion que le système économique mondial actuel n'était pas compatible avec les enjeux climatiques et qu'il fallait tout repenser. Donc ça m'a obligé à aller chercher les pistes, on va dire alternatives de résilience, toutes ces autres économies dont on parle peu dans les grandes écoles de commerce, dont on parle peu dans l'entreprise. Ça commence depuis quelques années, mais c'est pas la majorité. Et s'autoriser à penser des termes comme de la décroissance, la frugalité, la sobriété, et comment on rentabilise tout ça pour que le plus grand nombre vive correctement dans ce monde économique.
Donc là, à ce moment-là, c'est déjà la deuxième fois finalement que tu te reparamètres, toi, que tu te reprogrammes, que tu changes de trajectoire.
Ouais, c'est un cheminement. C'est-à-dire qu'il y a un livre que j'ai écrit en 2007 avec l'APM qui était partenaire chez Duno, qui s'appelait l'Alter Entreprise. Et pour moi, c'est la première fois que j'écrivais un essai, parce qu'avant, j'écrivais des livres sur la bourse, sur les bons de souscription, sur les varans, sur j'ai créé des logiciels pédagogiques pour apprendre aux gens à jouer en bourse. J'en ai vendu dans toutes les grandes surfaces d'Europe entre 1998 et 2001. Et puis je me suis rendu compte, en fait, par ce livre, que l'entreprise devait avoir ce triptyque en tête, c'est-à-dire être impliqué au niveau sociétal, environnemental et économique, et que les trois étaient indissociables. Donc vraiment, ce qu'on appelait le développement durable. Ça, c'était une première étape. Et à l'époque, je croyais que les actionnaires allaient de plus en plus aller vers l'investissement socialement responsable et allaient pousser les grandes entreprises à changer de comportement. Et avec 10-15 ans de recul, on se rend compte que c'est très long, c'est très lent, ça commence un peu, mais on est loin du compte. Et donc, il y a une deuxième étape où j'ai assumé le fait de dire, bah non, finalement, le capitalisme mondial, ce côté, on va dire, néoclassique, libéral, ça marche pas. Ça marche pas par rapport aux enjeux, parce que la dégradation environnementale et la biodiversité va tellement vite que si on ne réagit pas, l'humanité disparaîtra, c'est tout. Et donc, quand j'ai commencé à porter ces propos-là à la peine, c'était un peu difficile à entendre au départ.
Oui, et c'est ce que tu traduis dans ta vidéo TEDx, là, qui date de 2013.
Ouais, 2013, ouais.
Alors là, c'est 12-13 minutes à la TEDx, c'est-à-dire très bien organisé, le propos est très bien organisé, très structuré. Est-ce que tu peux nous le résumer ? Alors, on n'a pas 12-13 minutes devant nous, mais je crois que c'est vraiment... En tout cas, c'est une des pierres angulaires aussi de ton propos. Est-ce que tu arrives à nous le résumer ?
Oui, c'est simple. En fait, en 2013, je découvre Jared Diamond qui avait écrit le livre Collapse. Et Collapse, c'est effondrement. Et en fait, Jared Diamond expose les 5 facteurs d'effondrement des grandes civilisations. Donc je me dis, on y est. On est dans ces 5 facteurs d'effondrement. Notre civilisation occidentalisée, c'est-à-dire celle qui repose sur l'extraction massive des ressources naturelles qui génèrent de la pollution, on les transforme, on les consomme et on les jette. Et ça date d'un siècle à peu près, un siècle et demi, hein, Ça n'a pas toujours été comme ça dans l'histoire de l'humanité. Cette civilisation, elle s'effondre. C'est terminé. On est à la fin de l'Empire romain. Donc ça, c'est la première partie du TED. Puis après, j'explique que ça nous plonge dans une période clair-obscur. Et cette période clair-obscur, c'est quoi? Bah, c'est la Renaissance. C'est ce qui s'est passé il y a 5 siècles. Une période durant laquelle va apparaître l'impression mécanisée, vont commencer à être exhumés tous les livres de la connaissance grecque, romaine, ce qu'on appelle l'essor des Lumières et la révolution scientifique, qui va déboucher sur la révolution industrielle et le monde d'aujourd'hui. Et puis la Renaissance, c'est une période extrêmement violente, hein. C'est l'extermination des Amérindiens, c'est l'esclavage, c'est les guerres de religion entre protestants et catholiques en Europe. Et puis il y a un truc très important dans la Renaissance, qui est un peu la pierre angulaire de mon raisonnement dans toutes les interventions que je peux faire, c'est que la Renaissance, c'est cette période de l'histoire durant laquelle une vérité qui a 2000 ans, qu'on appelle le géocentrisme, Aristote a dit que la Terre était au centre de l'univers, bah ça vole en éclats. On se rend compte qu'on s'est complètement planté. On a vu le monde d'une manière complètement erronée pendant 2000 ans. Et la révélation de Copernic, de Giordano Bruno, de Galilée, comme quoi tous les astres sont en mouvement, va changer notre regard sur le monde. Avec la découverte des Amériques en plus, ça fait quand même deux chocs géographiques et cognitifs extrêmement puissants qui vont tout changer. Et ça a ouvert une nouvelle ère qu'on appelait la modernité, le monde dans lequel on est. Et mon propos, c'était d'expliquer aux gens, on vit la fin de la modernité. On vit la fin de ce monde moderne qui a mis l'individu au centre, qui a mis le matérialisme au centre, qui a mis la raison au centre. Tout s'explique, tout se décortique. Et là, on change de monde parce que d'une part, la Terre a des limites physiques en termes de ressources naturelles. Deux, l'exploitation des ressources naturelles génère des pollutions qui génèrent un dérèglement climatique majeur qui nous met en péril puisque la nature n'a pas le temps de s'adapter à la vitesse à laquelle il faudrait qu'elle s'adapte pour faire face à 2, 3, 4, 5 degrés de hausse d'ici la fin du siècle si on bouge pas. Donc voilà, le TED, c'était vraiment un uppercut pour dire aux gens, réveillez-vous, le développement durable va pas suffire, la croissance verte, ça marchera pas, il faut changer de monde, et on est en train de changer de monde. On est comme ces sénateurs romains qui se croient le centre d'univers, et on va disparaître, et autre chose va naître. Donc le côté réjouissant, c'est qu'autre chose apparaît.
Donc ouais, changement de monde, fin d'un paradigme. Ce qui m'a frappé moi dans cette vidéo, c'est que là tu l'illustres ce propos-là de la fin du monde, du changement de paradigme avec des exemples des Romains, avec l'exemple de Copernic qui nous paraissent assez abstraits, assez lointains. Puis on a presque l'impression bon ça c'était quand même hier et puis qu'aujourd'hui bah non on le sait bien hein, que la Terre elle est pas plate et Copernic aujourd'hui ça aurait pas pu arriver. Et par contre tu arrives avec un autre exemple et là tu l'as abordé un moment dans ton propos, c'est l'esclavage. Et tu dis, ben, et t'expliques que c'est le fondement de la société d'il y a pas si longtemps que ça, pour le coup. Celui-là, tu vois, d'exemple, il m'a encore plus frappé, il m'a fait plus d'électrochocs que ce qui me paraît bien plus lointain comme la civilisation romaine.
Ouais, en fait, c'est le troisième volet de la présentation du TED, et je l'utilise toujours, hein, en intervention APM ou ailleurs, ce rapport à l'esclavage. C'est-à-dire que on a eu un modèle économique qui pendant des décennies, c'est-à-dire du 16e, de la découverte des Amériques à leur exploitation par les Européens, basé sur la main-d'œuvre physique qu'on appelle l'esclavage. Et on a commencé la traite triangulaire, on a commencé à déporter massivement des millions d'Africains vers les États-Unis et les Caraïbes pour produire du coton, de la canne à sucre et tout ce qu'on a connu derrière. Et ce qui est intéressant, et je l'ai compris en vivant, parce que je vis à Nantes, je l'ai compris en visitant le mémorial de l'esclavage à Nantes il y a quelques années, en 2012, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, c'était normal. C'était le business. C'était pas négociable.
Comme aujourd'hui, c'est normal de ne pas prendre en considération la nature plus que ça, quoi.
Ben voilà, c'est pour ça que je parle d'un esclavagisme environnemental. On est en train de tout bousiller. Pour produire quoi? Des points de PIB, des iPhones, des Nike, des chaussures de marque en plastique qui vont être jetées au bout de 6 mois. Et on détruit en fait l'avenir de nos enfants, on détruit la Terre, la planète. Et le propos qui est important, c'est de retenir que dans 20 ans, en 2040, parce qu'on sera déjà assez rendu loin en 2040 au niveau destruction, 2040-2050, les gamins vont nous regarder comme les maîtres esclavagistes du 18e siècle. Ils vont nous dire, mais comment avez-vous pu faire ça? Et l'idée, c'est d'insister sur le fait que l'indispensable du présent devient l'impensable le lendemain. Et aujourd'hui, on n'a pas 200 ans pour changer, on a 20 ans maximum. Et nos enfants, les enfants qui ont 10-15 ans aujourd'hui, vont nous considérer comme les maîtres esclavagistes en 2040 et vont nous dire, mais pourquoi vous avez fait ça? Vous le saviez. Vous étiez irrationnel, vous étiez des sapiens, vous n'étiez pas sages. Sinon, vous auriez tout arrêté, vous auriez bifurqué. Donc ça, c'est très important. Hein.
Ouais, ça fait mal, ça fait mal. Merci pour cette image parce que je la trouve vraiment parlante. Et là, on est dans quelque chose qui, allez, on espère peut provoquer une réaction. En quoi, selon toi, le numérique a joué un rôle clé là, ces dernières années dans le changement de paradigme qu'on est en train de voir finalement, dans la disparition de la civilisation telle qu'on la connaît aujourd'hui?
Ouais. Bah, tous les grands mouvements tiennent à un catalyseur qui précipite l'effondrement d'une société qui était déjà, on va dire, un peu moribonde. Et le numérique qui a apparu dans les années 95, il a fait surgir ce que j'appelle les barbares numériques, ces GAFAM, ces BATX, c'est-à-dire les Google, l'Amazon, etc., qui ont précipité l'effondrement d'une société, on va dire, industrielle, productive, en la remplaçant par autre chose. Et je pense qu'ils sont que éphémères, ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils sont un catalyseur de changement de paradigme. Et derrière, le numérique, alors l'aspect négatif, c'est qu'il peut nous asservir, nous rendre complètement affalés dans un fauteuil à consommer du coca et à regarder Netflix en consommant des pizzas livrées par Deliveroo, hein. Ça, c'est le côté négatif. Je suis pas très fan de la numérisation à outrance du monde. Et l'autre revers positif de la médaille, c'est que ce numérique, pour la première fois, il connecte 5 à 6 milliards d'individus sur la planète. Il leur permet d'agir ensemble, de décider ensemble et de dire non ou oui ensemble. Et on l'a pas encore vu politiquement beaucoup, à part peut-être le printemps arabe, à part peut-être quelques grandes manifestations internationales. Mais je prends le pari, parce que je suis persuadé qu'il va se passer des choses inattendues et improbables dans les prochaines années. Ça a commencé avec le Covid. Je prends le pari que dans les 10 ans qui viennent, on va avoir un grand mouvement citoyen issu de la jeunesse qui dira stop. Et ils auront le numérique pour le faire ensemble et faire basculer nos dinosaures politiques et passer à autre chose, à un autre paradigme politique économique. Parce qu'ils n'auront plus le choix.
Et à ce moment-là, à ton avis, où en seront les Uber, Facebook, Tesla, Amazon?
Ben justement, ce qui est intéressant, c'est que soit ils vont trop loin et tombent, c'est-à-dire qu'ils vont tellement loin que finalement les gens se détournent d'eux ou les sanctionnent, soit ils changent complètement de vision du monde, c'est-à-dire une nouvelle stratégie, et ils peuvent être un atout. Imaginons qu'un Facebook ou un Google demain décide de s'engager massivement dans la transformation écologique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit déjà propre au niveau de son outil. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais il y a un gros travail. Et puis derrière, s'ils abandonnent l'hyperconsommation, ils peuvent être un soutien. Mais je ne crois pas trop. Hein. Je pense plutôt que va surgir des événements, par exemple, un bug informatique, une éruption solaire, qui effondre le système tel qu'on le connaît, et qui nous oblige, qui nous invite à passer à autre chose qui est déjà naissant, qui est déjà là. C'est la frugalité, ce que j'appelle la relocalisation avec un W. Tout ça, c'est déjà en cours. Tout ce qu'on appelle sobriété, frugalité heureuse, tout ce mode de vie plus lent, la slow life, consommer moins, consommer mieux, c'est déjà en cours. En cas d'accident grave, économique, qui peut être un krach financier, qui peut être un bug informatique, qui peut être un événement naturel comme une éruption solaire contre laquelle on peut rien faire, tous ces GAFAM, ils s'effondrent. Ils disparaissent. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est impensable aujourd'hui. Si je te dis ça, tu vas me dire, non mais n'importe quoi, Yannick. Mais Amazon n'a que 27 ans. Et on n'imaginait pas le Covid arriver, il a surgi. Ça commence à tout changer dans l'économie mondiale. Et ça va avoir des conséquences extrêmement importantes dans les prochaines années sur les comportements, sur notre façon de vivre, sur notre façon de penser, etc. Eh bien, on peut avoir encore d'autres événements qui surgissent. Et ça, c'est tout le dernier livre que j'ai écrit sur l'improbable, qui va nous faire basculer dans un nouveau monde, comme on eut cet effondrement de l'Empire romain qui était impensable à l'époque.
Alors justement, oui, merci pour la transition. On en arrive là. Donc on est en mars 2020, un peu avant. Allez, février 2020, tu es en train de travailler sur un ouvrage, sur un manuscrit, il est presque terminé, et là, pandémie. Et tu te retrouves, si j'ai bien compris, à devoir d'abord une forme de déni de la situation en disant, bon, le fond du propos de mon manuscrit, en plus je viens de passer quand même beaucoup de temps à l'écrire, donc je vais pas tout jeter à la poubelle, je vais juste le réaménager. Et puis au bout d'un moment, t'acceptes l'idée que non, le changement là est trop brutal, ça remet tout en question. Et donc tu repars quasiment de la page blanche en disant, je refais un livre et qui s'appelle Quand l'improbable surgit, un autre futur revient dans la partie.
Tout à fait. Bah, en fait, l'histoire, c'est ça, ouais. J'étais à Edic sur l'île d'Edic en juillet 2019 et j'écrivais un livre qui s'appelait Face à l'effondrement, le pari de l'improbable. J'étais persuadé que l'effondrement écologique, on n'irait pas jusqu'au bout, qu'il allait se passer des choses incroyables qui allaient nous obliger à stopper l'économie mondiale et à bifurquer. Et puis 6 mois après, 7 mois après, surgit ce Covid. Et là, comme tu l'as dit, j'ai pas accepté au début de me laisser traverser par l'improbable. Et c'est ce qui se passe dans les clubs APM ou les clubs de dirigeants en manière générale, c'est que on sait ce qui est en train de se jouer. Mais on veut pas l'accepter quelque part. On veut continuer comme avant, malgré le fait que l'on sait ce qui est en train d'arriver. Et se laisser traverser par ce qui arrive, bah, c'est accepter de tout reprendre, de se remettre en question et de retravailler le sujet et de reprendre à zéro quelque part le travail. C'est ce que j'ai fait entre le mois de mars et le mois de mai pendant le confinement.
Tu peux nous redéfinir ce que c'est que l'improbable?
Oui, alors l'improbable, c'est tout ce qu'on ne probabilise pas, comme on dit, c'est-à-dire que l'être humain a un travers, c'est qu'il a peur de l'avenir et il aime maîtriser les choses qui, de toute façon, par définition, sont inattendues et improbables. C'est-à-dire que sera demain matin, que sera ma vie dans 1 an, dans 2 ans, je ne peux pas savoir, tout peut arriver. Mais on passe notre temps à faire des plans, de façon à avoir une vision linéaire, maîtrisable, de ce qui va arriver. On fait du, du passé, du copier-coller d'un passé vers le futur. Et il y a des événements qu'on ne probabilise pas, comme cette pandémie, par exemple. On se dit, oui, une pandémie, ça peut arriver, il y en a eu dans l'histoire de l'humanité. Mais bon, oh, il y a peu de chances qu'on soit touché. Puis on est tellement bon en technologie aujourd'hui que de toute façon, on maîtrisera. Donc c'est tellement infime que ce n'est pas probabilisé. Ce n'est pas dans les scénarios. Dans les stress, c'est un cas, on ne le probabilise pas. Et donc l'improbable, c'est le truc auquel personne ne veut croire et qui surgit parce que l'histoire n'est qu'une succession de phénomènes improbables, inattendus. 1913, on n'imagine pas la guerre de 14-18. Et elle a lieu. 1914, on n'imagine pas que la révolution russe chasse le roi, le monarque, le tsar du pays. 1912, on s'imagine pas que les femmes auront le droit de vote en Europe. 1934, on s'imagine pas qu'il y ait les congés payés un jour. Tu vois, c'est que ça, l'improbable.
Et Yannick, selon toi, qu'est-ce qui fait que le... Est-ce que c'est biologique? Est-ce que c'est notre cerveau qui est ainsi fait que il manque un peu d'humilité, il ne retient pas l'expérience du passé? Parce que, comme tu le dis, si, statistiquement, et puis tous les penseurs, il y a beaucoup de penseurs quand même, et toi tu défendais déjà ce propos bien avant que ça arrive, dans ton bouquin, dans le début du livre, tu dis, toutes les personnes qui tentent d'anticiper l'avenir avaient scénario pandémique en tête, nous n'avions aucune idée du quand et du comment. Pandémie, krach financier mondial, bug informatique, révolution des jeunes, catastrophe nucléaire, autant d'étincelles qui pouvaient et peuvent encore nous faire basculer dans une autre direction, nous faire emprunter une autre trajectoire. Et t'es pas le seul à le dire à l'APM, on l'entend souvent, vous êtes un certain nombre de penseurs à le dire, à l'argumenter, à le développer, il y en a même qui remontent sur les 200 dernières années et qui montrent que les cycles de crise ont telle caractéristique et que on a toutes les caractéristiques d'une crise à venir, et pourtant, on continue tous à se comporter comme si ça n'allait pas arriver. Et je dirais même, un an après la pandémie mondiale, on continue encore à piloter nos entreprises comme si ça n'existait pas.
Ouais, et comme si ça allait revenir à la normale. C'est-à-dire que c'est beaucoup de dirigeants aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que on va revenir au rythme de croissance économique de production de 2019. Mais c'est assez aberrant parce que d'une part, je pense que ça n'arrivera pas parce que la crise est bien plus profonde qu'on ne le pense et ce Covid est vraiment un catalyseur bienvenu quelque part malgré les souffrances humaines et économiques de certains. C'est un catalyseur extrêmement puissant de changement de paradigme. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour les jeunes générations, même si nous, à court terme, on va morfler un peu. Et d'autre part, il faut pas que ça revienne comme avant. Parce que si on produit autant qu'on produit en 2019, on n'arrivera jamais à baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Et je rappelle aux gens qui nous écoutent que les accords de Paris sont très clairs. Si on veut être à la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire ne pas émettre plus que ce que les océans et les arbres peuvent absorber tous les jours, pour que le climat soit, on va dire, vivable pour l'humanité, il y a un camp d'étape avant d'atteindre l'Everest de 2050. Ce camp d'étape, c'est 2030. Et 2030, faut qu'on soit où? Faut qu'on soit à moins 40% d'émissions. Et depuis 150 ans, on n'a pas fait une année en baisse. Donc, on est tous les ans en augmentation. Parce que l'économie mondiale ne peut pas fonctionner sans émettre du carbone dans le contexte actuel. C'est-à-dire que si on produit, qu'on consomme, qu'on jette, on émet, on émet, on émet. Et donc, ceux qui pensent qu'il faut revenir au monde d'avant, à la normalité, ils sont suicidaires, parce qu'ils nous emmènent droit vers l'effondrement de l'humanité. C'est un climat à plus 5 degrés à la fin du siècle. Donc il faut être à moins 40, donc il faut baisser. Et pour baisser, c'est quoi? Bah, c'est changer tout le paradigme économique. C'est moins d'avions, c'est moins de voitures, c'est moins de pollution, c'est moins d'hyperconsommation. Par contre, ça ouvre, et c'est là où on est dans la Renaissance, une créativité nouvelle qu'on n'imagine pas encore. C'est quelle mobilité demain? Quelle alimentation? Quel déplacement? Quelle informatique? Quel numérique? Quel textile? Faut tout créer. Et là, c'est extrêmement enthousiasmant pour les gens qui ont envie de créer quelque chose qui n'existe pas encore. Il y a déjà plein de germes qui existent en textile en France. On a énormément d'entreprises qui font des choses vraiment intéressantes comme les 1083, les Veja, les Théorum, ces gens-là. En numérique, ça commence à bouger un peu. Dans l'alimentation, il y a plein de choses au niveau agricole, hein, la permaculture, l'agroforesterie, etc. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton. Mais il faut surtout pas revenir en arrière, sinon on est foutu.
Alors, comment on fait pour utiliser une belle ressource qui serait la jeunesse avec ses idéaux, sa fougue, sa créativité et ses nouveaux usages, ses nouvelles pratiques, notamment grâce au numérique, avec des capacités vraiment amplifiées? Comment tu suggérerais, toi, chef d'entreprise, d'utiliser cette belle ressource?
À cette belle ressource, faut la laisser s'exprimer. C'est-à-dire que moi, ce que je constate, c'est que quand on est dirigeant de 50 à 60 ans en entreprise, on a du mal à donner des responsabilités importantes à des jeunes de moins de 30 ans ou de 25 ans. Et puis surtout, à les écouter, à l'intégrer dans les organes de direction et de décision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui font des choses intéressantes, qui créent un comité de direction de jeunes à titre informatif. Ils leur donnent la même décision à prendre. Ils se réunissent entre vieux, entre guillemets, entre nous, gens de mon âge. Et puis à côté, le même comité avec des 25 ans, 24 ans, 26 ans, 27 ans se réunissent et donnent leur vision de la stratégie sans consulter l'autre conseil d'administration. Et ces deux conseils travaillent en parallèle et on se rend compte qu'ils prennent pas du tout les mêmes décisions. Et donc, on aurait intérêt, quand on a plus de 50 ans aujourd'hui, de s'entourer de personnes très jeunes, de 20 ans, 22 ans, comme conseil, comme consultant, entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, on prend des consultants de 40 ans, 45 ans, 50 ans. Il faut avoir les tempes grisonnantes pour être crédible quand on est conseillé. Mais un gamin de 18 ans, 20 ans qui viendrait dire « Mais moi, je comprends pas pourquoi on fait ça, là. On est en train de travailler pour une entreprise extrêmement polluante. Pourquoi on le fait pas autrement ?» Souvent, il est raillé en entreprise. On va dire « Attends, c'est qui ce petit jeune pour qui il se prend ?» Il est à peine arrivé, qu'il nous donne des leçons. Mais elle est là, la clé, pourtant. C'est les écouter. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison surtout, mais les écouter, en tirer des conclusions, discuter avec eux et co-construire avec eux l'entreprise de demain et le futur de demain. Il faut leur donner plus de place. Sinon, ils vont la prendre, la place, hein, dans quelques années.
Et tant mieux, peut-être. Ou alors, c'est cyclique. Quand les jeunes deviennent moins jeunes, peut-être qu'ils n'arrivent plus à penser comme des jeunes.
Là, ils n'y arriveront pas, c'est pas possible. Parce qu'en fait, on m'a souvent sorti cet argument de dire « Oui, ils vont se faire rattraper... » par le confort moderne, entre guillemets, les 68 heures sont devenus pires que les autres. Mais ouais. D'une part, ces jeunes-là perdront peut-être pas leurs convictions comme leurs parents. Première chose, ils resteront peut-être bien plantés avec des vraies convictions, ça j'en suis persuadé. Et d'autre part, ils n'ont pas le choix. Parce que s'ils commencent à faire comme papa et maman, à s'installer dans un confort matériel, avec des grosses voitures, des ordinateurs dans toutes les pièces, hyper consommés, voyager dans le monde entier tout le temps, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est l'effondrement climatique qu'on aura, et celui de la biodiversité. Et là, on commence à voir depuis quelques années en France ce que ça donne, des canicules, des inondations, des ouragans, des dégâts matériels. Et au niveau économique, je rappelle juste que l'ancien président d'AXA, Henri de Castres, disait « Un monde à plus 2 degrés serait encore assurable, un monde à plus 4 ne le serait certainement plus. » Quand on voit les inondations dans la vallée de Vésubie, comme on a eu en septembre, quand on voit ce qui se passe dans le sud de la France aujourd'hui, imaginons que ça devienne récurrent tous les hivers, qui va payer les dégâts économiques ? Là, ça a coûté très cher à l'économie mondiale et ce sera bien pire que le Covid. Aujourd'hui, on est focalisé sur la crise du Covid et on débloque 12 000 milliards de dollars dans le monde. Il faut se rendre compte que la crise climatique et ses conséquences, ça sera bien plus important, beaucoup plus de morts et beaucoup plus de dégâts financiers.
Pour quelles raisons, selon toi, pour le Covid, on trouve les fonds, pour la crise beaucoup plus structurelle et fondamentale climatique, on les trouve pas, on les engage pas. Pourquoi il n'y a pas la volonté et je dirais, pourquoi il n'y a pas le désir? Et je crois que c'est un sujet qui t'est cher, toi, le désir et comment on rallume la flamme et donner l'envie aux gens de changer les choses. Pourquoi on n'avait pas ce désir avant la pandémie et pourquoi là, d'un coup...
Ouais, la problématique, c'est qu'en fait, l'être humain s'est coupé du vivant. On a coupé le cordon ombilical avec la nature il y a 12 000 ans pendant la révolution néolithique, mais surtout à partir des religions monothéistes qui ont commencé à mettre l'homme sur un piédestal, l'humain, ce qu'on appelle l'anthropocentrisme, hein, l'homme au centre du monde, l'homme est supérieur. Et puis arrive la Renaissance en Europe avec un René Descartes, un Buffon, des gens comme ça, qui nous disent que la nature n'est qu'une matière première qu'on peut transformer à souhait et que l'être humain est tellement un génie entouré de machines vivantes qu'on appelle des animaux qu'il est doué d'une... Il a un don du ciel, il est là pour réglementer, gérer la Terre, la façonner à son image. Et on est encore dans cette pensée philosophique totalement erronée qu'on appelle l'anthropocentrisme et l'humanisme. Et il faut en sortir. Donc pour que ça devienne, pour qu'il y ait un quoi qu'il en coûte climatique naturel, il faut en finir avec le déni de nature, il faut que l'être humain se réconcilie avec la nature, qu'il comprenne qu'elle est belle, il faut qu'il la contemple, il faut qu'il s'interdise de la souiller et de la détruire. Et donc c'est un autre modèle économique, c'est un autre modèle philosophique, c'est d'autres valeurs, c'est-à-dire que viendra le jour, et j'en suis convaincu, où avant de couper un arbre, on fera comme les animistes, j'appelle ça un animisme moderne, on lui posera la question, on lui dira « je vais te couper, j'ai besoin de ton bois », et on le remerciera de son sacrifice. Ça fait sourire les Occidentaux en 2020 et 2021, parce que ces peuples animistes, on les a réduits en esclavage, on les a exterminés, et on les a réduits au statut de sauvage, mais ils ont 5 à 10 000 ans de tradition orale et de compréhension de l'univers dont on devrait tirer des leçons, parce que je te rappelle juste que les Occidentaux se croient maîtres et possesseurs du vivant parce qu'ils envoient des fusées dans l'espace qui décollent et qui se reposent, mais il y a 98% de l'univers qu'on appelle la matière noire, on ne sait toujours pas ce que c'est. Et ce monde invisible qui commence à revenir par le yoga, la méditation, l'ésotérisme, le chamanisme, dans la société occidentale qui transpire, bah finalement, il nous apporte peut-être des réponses et il nous obligera à nous remettre en humilité dans ce monde. Humilité au sens humus. La terre, le terreau, moi je parle beaucoup d'homo humilis, et pas de sapiens, parce que sapiens fait des gars, cet homme humble qui contemple la nature, mais ce n'est pas s'interdire de prélever des ressources, hein. C'est le faire à bon escient, dans des limites acceptables, et avec toujours cette considération, ce remerciement d'une nature qui est extrêmement généreuse et qui nous donne la vie. Parce que si on continue à être coupé du vivant comme on l'est aujourd'hui, à être dans ce déni de nature, nous sommes des animaux dénaturés quelque part, eh bien, l'issue, elle est fatale. L'issue, c'est la voie l'impasse tragique, comme dit Enjolras, c'est-à-dire que l'humain sortira du jeu, point. On n'est qu'une espèce parmi d'autres. Et personne n'a besoin de nous sur Terre, c'est ça le problème. Tu vois, je peux te poser une question, c'est à quoi on sert? À part détruire. Ah ouais? À part détruire, à quoi sert-on sur Terre?
Il faut que je réponde.
Bah non, bah à rien, la réponse à rien, on ne sert à rien. On est comme des parasites, l'humanité est comme un parasite. Donc on est un parasite qui est toléré par un autre qu'on appelle Gaïa, la Terre, qui gentiment nous tolère. Bah, faisons en sorte de pas trop la déranger, qu'on continue à vivre en harmonie. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, 80% des gens, 85% des gens, quand tu leur parles de la nature, c'est juste quelque chose de distrayant, c'est joli, il y a des beaux arbres, il y a la mer, la montagne, c'est sympa, mais ils se rendent pas compte à quel point on est inutile, alors qu'on a besoin de l'ensemble de l'écosystème. On a besoin de l'eau, on a besoin des oiseaux, on a besoin des vers de terre, on a besoin des abeilles. Et ça, on commence à le toucher du doigt. Et là, je suis optimiste, c'est que la jeune génération le comprend vraiment fortement et commence à l'intégrer fortement dans ses gènes.
Enfin, qu'est-ce que tu dis aux gens qui peuvent être sidérés face à ce constat et dans l'incapacité de fait de se mettre en action, de se mettre en mouvement pour changer les choses dans le monde qu'on a décrit, qui est complexe, qui est volatile, qui va très très vite? Qu'est-ce que tu leur dis à tous ces sidérés?
Alors, je leur dis que première chose, la sidération paralyse et ça ne sert à rien d'y rester. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce que sera l'avenir. C'est-à-dire que le futur étant improbable et inattendu, ça c'est les leçons qu'on tire de l'histoire de l'humanité, à quoi sert-il d'avoir peur sur les 20 prochaines années, sachant que tout peut arriver. Tout peut arriver, le pire comme le meilleur. On peut avoir un météorite, qui nous extermine, comme on peut avoir une révolution philosophique, technologique, humaniste, sociale, qui surgit à l'aune de ce Covid dans les prochaines années. Et qui change complètement la donne. Donc, il faut miser sur l'improbable, parce que c'est la seule bouée de sauvetage. C'est-à-dire que l'improbable et l'inattendu, il n'y a que ça qui peut nous tirer d'affaire, puisque le probable, c'est l'effondrement climatique et écologique. Donc, bon, on n'en veut pas du probable. Le probable, c'est une ligne droite, hein, tu tires un trait de A, B, V, vers C. Et puis, l'autre source d'espoir, c'est que récemment, dans les travaux que j'ai pu faire, on sait aujourd'hui en physique quantique que le futur dépend de nos actions présentes, mais que le futur est déjà en partie déployé. Dans ce qu'on appelle le multivers quantique, dans une dimension qu'on ne voit pas, et que ce futur nous envoie des signes. Le futur influe le présent influe le futur. Ces signes, c'est l'intuition que tu ressens dans ton corps, c'est ce qu'on appelle les synchronicités, les heureuses rencontres. Et aujourd'hui, ce futur nous envoie des signes, il nous dit qu'effectivement, une autre économie est possible, le Covid est en train de nous prouver, peut-être que le Covid est un signe d'un futur qui cherche à s'imposer, et que plus je crois dans ce futur, plus je le nourris par mes intentions, par mes actions, par ma pensée, plus il a des chances de se matérialiser, de se densifier et de m'envoyer des signes pour me dire que voilà, c'est le chemin qu'il faut prendre. Je ne sais pas si je suis assez clair en quelques secondes, mais l'idée, c'est que on a une grosse influence sur le temps, par la pensée, par nos actions et par l'intention qu'on y met. Et ça, il faut le cultiver tous les jours. Donc, avoir foi en l'avenir, avoir foi en l'humanité et se dire que ce futur soutenable, il va émerger si on y croit. Et plus on sera nombreux à y croire, plus il y a des chances d'émerger parce qu'il se densifiera dans la réalité.
Ça, c'est le propos que tu développes dans la deuxième partie de ton livre, du nouveau livre. Donc il faut lire ce nouveau livre, hein.
Bah en fait, j'ai cherché toutes les solutions qui pouvaient donner espoir à une jeunesse. Je leur dis, un, soyez rassurés, l'inattendu, l'improbable va surgir. Il est en train de surgir avec le Covid. Deux, plus vous agissez, plus vous nourrissez l'intention, le souhait de voir émerger un monde soutenable, plus vous allez nourrir cette possibilité qui peut se densifier dans la réalité. Donc vous avez tout intérêt à être actif, avoir une intention forte et avoir la volonté de faire émerger ce futur soutenable. Et c'est comme ça qu'il émergera. Et c'est comme ça que surgiront des phénomènes improbables qui nous obligeront à bifurquer encore plus. Moi, je suis très serein sur l'avenir. Je suis serein. Ouais, je suis pas inquiet. Je suis serein. Serein, ça veut pas dire que t'es pas lucide. Non, non, non. La lucidité, c'est traverser l'obscurité avec une torche. Hein. C'est ça, la lucidité. On traverse un tunnel actuellement, mais on va sortir du tunnel. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on en sortira. Et même dans ce monde anxiogène en ce moment avec ce que l'on vit, il y a que des très belles journées, des très beaux moments, il y a des belles rencontres, il y a une nature magnifique. Bah, il faut savoir l'apprécier aussi. Il faut fendre cette obscurité au quotidien.
Merci pour cet éclair de lucidité, pour ce faisceau de lumière dans la nuit que tu nous offres. Merci Yannick pour cet échange.
Merci à toi.
L'ambition de l'APM, c'est d'aider les entrepreneurs à se transformer, à créer de la richesse et à contribuer de façon positive au monde qui les entoure. Quels conseils donnerais-tu aux entrepreneurs qui souhaiteraient profiter de cet improbable pour changer de trajectoire?
Bah surtout, ne restez pas dans vos zones de confort, n'ayez pas peur de l'inattendu et créez l'improbable en prenant des risques. C'est ça, un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est pas un administrateur, c'est pas un gestionnaire, c'est quelqu'un qui prend des risques. C'est un aventurier de l'économie, qui se jette dans l'aventure. Faut y aller.